6,4.
Oui, le long de la fenêtre.
Donna,
7,9.
Tu n'as pas oublié de le remettre à zéro?
Mais j'en sais rien. Tiens, regarde.
C'est un vrai hier. Il y a des passages secrets un peu partout. Il y a des chaises dans l'autre pièce. Allez les chercher, ensuite disposez-les en cercle.
C'est pas trop lourd?
Non, ça va. Laisse, c'est mon sac.
Ils organisaient des séances de spiritisme dans cette pièce. Et tous les médiums s'accordaient à dire que cet endroit extraordinaire émanait quelque chose de spécial. Deux d'entre eux acceptèrent de revenir, excepté un sataniste, croyant et pratiquant, et il était persuadé que cette Donna avait abrité des entités démoniaques.
Peut-être serait-il préférable d'avoir un médium avec nous. Ces appareils sans âme ne sont pas à leur place ici.
Au contraire, Donna, grâce à ces appareils sophistiqués, nous pouvons enregistrer de façon très précise les variations de l'intensité magnétique.
D'accord, Bill, mais cela ne répond pas à la question de Donna.
Et lorsqu'une créature infernale
sans la présence d'un vrai médium, comment veux-tu que ces phénomènes puissent se produire ponctuellement et sur commande ?
Personne ne constatera la véracité des faits.
Nous sommes-nous actuellement en phase active ?
Vous allez me répondre ? Tout ça, c'était du cinéma !
C'était un simple exercice de routine.
Nous tester ? Et vous espériez obtenir des résultats avec des méthodes pareilles ?
Quand on aborde le thème de sa propre survie,
je vous demandais ce que vous en faites.
Seul l'instinct doit prendre le dessus. Très bien, j'avoue que les appareils ont été truqués.
Seul l'instinct doit prendre le dessus.
Maintenant, écoutez-moi bien.
Bravo, bel exemple d'éthique morale.
Les appareils ont été truqués pour l'expérience. Mais l'ectoplasme est bien réel. Écoutez-moi tous très attentivement. Je voudrais que vous me fassiez un rapport détaillé de tout ce à quoi vous avez assisté.
Je veux dire, n'était pas réel, mais il n'était pas prévu.
Et je voudrais savoir très précisément ce que chacun d'entre vous a cru avoir vu.
Comment avez-vous réglé l'appareil pour obtenir ça ?
Il est absolument évident que cet endroit abrite une entité démoniaque suffisamment forte pour projeter des hallucinations.
Pourquoi mon squelette apparaît en relief ?
Où est-il passé ?
Pourquoi le tien est-il différent ?
N'avait rien d'une hallucination. Je l'ai détruit. Je suis quand même pas folle.
Mais nous avons tous vu la même chose.
Viens, et les photos. laisser entrer, bien sûr.
Il n'y a aucun signe de son passage.
Là, vous nous expliquez qu'il n'y a pas la moindre constance entre nous.
Aucune trace sur le plancher, ni dans la cheminée, ni dans ton sac de nain. Nous avons été victimes d'une attaque physiologique. En vérité, ce que nous avons vu est bien la preuve de l'existence d'une force contre laquelle nous luttons.
Jack, tu oublies qu'on est là pour démagnétiser. Est-ce que tu crois que le docteur est vraiment chez lui ?
De quoi tu t'occupes ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre ?
6,8. 5,3.
Par rapport à quoi ?
58,2.
Cela démontre aussi. J'aurais bien peur que cette force est tout à fait capable de faire naître la paranoïa. Je voudrais que vous observiez afin de faire naître une étude très élaborée du comportement irrationnel. Au moins, je vous aurais averti. Ce que je vous demande, c'est du professionnalisme.
Je trouve que...
Non, pas du
tout.
Arrête de dire des bêtises.
Nos données devront être impeccables. Je vous donne la précision, je suis sûr que vous me donnerez satisfaction. Première chose, il faut démagnétiser entièrement cette maison.
4,2.
S'il n'y a rien, c'est nul.
J'en sais rien, j'ai cru entendre quelque chose.
8,6.
Chut.
8,6. Pourquoi faut-il que je te le répète à chaque fois ?
Si je vous ai engêné,
quoi ?
C'est autant pour votre protection que pour l'efficacité de l'expérience.
Quoi ? J'entends rien du tout. Qui es-tu ?
Le petit garçon a certainement été puni.
Attends, on peut pas le laisser bêtise. Comme ça.
Pourquoi ?
Qu'est-ce que tu veux ?
Il était enfermé dans le grenier. La femme du propriétaire ne s'en est jamais remise. C'est pour ça qu'elle est partie avec les autres enfants. Juste après l'enterrement du petit. Oui, mais mon propos n'est pas de faire apparaître le fantôme d'un garçon malchanceux. Je cherche l'entité qui se cache derrière tout ce qui se passe dans cette maison.
Il n'est pas question que je reste une seconde de plus.
Si je vous ai enchaîné, c'est autant pour votre protection que pour l'efficacité de l'expérience. Je ne veux aucune interférence. Moi aussi, je serai enchaîné. Ça suffit. Les chaînes sont destinées à empêcher l'entité de nous entraîner en dehors de cette pièce. Tout comme elles nous empêcheront de faire du mal à l'entité.
Pas du tout d'être attaché comme ça. Sous l'effet de la peur, il est possible qu'il réagisse mal et que votre expérience soit ratée, mais moi,
vous n'avez pas le droit. Ce sont les ordres du docteur.
Oui, d'accord. Et si jamais l'entité cherchait à s'en prendre à nous ?
Il faut que j'emmène le corps après qu'il viendrait vous détacher. Ce sont les ordres du docteur.
Exercice d'entraînement, docteur.
Je pense que tu devrais sérieusement envisager de changer de carrière. Quand la paranoïa se met de la partie, c'est le sang-froid qui en prend un coup. Mon expérience du culte satanique me dit... Voyez-vous, c'est une lutte à la corde. Nous allons essayer de tirer l'entité dans notre dimension. Par la force de notre volonté. Sein du rituel. Bien entendu, l'entité va nous résister. Mais une fois neutralisée, elle va essayer par des moyens extravagants de réintégrer sa propre sphère. En vous entraînant avec elle, le compte à rebours est commencé.
Mais
trahis, nous tuer.
Par de
Absolument nous détacher. Je commence à avoir des fourmillements dans les bras.
C'est la même chose à chaque fois.
De perdre définitivement la possibilité de nous illustrer dans le monde de la science.
Je vais porter plainte au Conseil de l'Ordre.
C'est une excellente idée.
Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, ça ne peut plus durer.
Jackie.
Attendez, docteur.
C'est votre troisième idée.
Il faut en aller au monde.
Il a pas dit à quel moment je devais vous détacher.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Pourquoi vous avez de Duke?
Les soins sont pas encore à l'infection, qui ne connaît rien à la parapsychologie. Tu es pétroyable, regardez-le, inominable. Ne t'inquiète pas, ne devient des accidents. Tu n'as aucun avenir.
J'en ai marre de toutes vos expériences.
C'est tout à fait une question, Jack.
On se calme! Est-ce que vous vous rendez compte?
Quand on commence quelque
nous
chose.
Nous sommes victimes de l'entité, elles sont complètement parano. Elles essaient de nous monter les uns contre les autres.
Comment ferais-je mon expérience si tu les emmènes?
Mais prenez bien. Mais écoute, parce que si jamais il leur arrivait quelque chose, je vous.
C'est la paranoïa!
Dites-moi que je rêve, je ne suis pas fou tout de même.
Non,
je
ne suis rien fait à ce monde.
Je vous emmène.
Il doit travailler, et si on travaille pas, on mange pas. Et c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir travailler avec un
homme aussi efficace que ça. Bravo, on a tous marché, c'est réussi.
Je veux m'en aller, il est
mort.
Scientifique. Par contre, il a des tas d'autres cordes à son arc.
Dépêchez-vous. Vous n'êtes qu'un vulgaire imposteur, alors ça suffit.
Démission acceptée. Stanley, pourrais-tu m'apporter une autre blouse et débarrasse-moi du corps? Et sois gentil, détache nos amis.
Stanley, dépêche-toi de nous détacher.
Et bien maintenant, il va falloir entièrement démagnétiser la maison.
Stanley, ne sois pas aussi borné, voyons.
Indispensable.
Détaché.
Pour notre prochaine rencontre dans trois quarts d'heure. Il y a-t-il des gens contre?
On va se mettre au travail tout de suite.
De marcher.
Je n'ai pas l'impression.
Dès qu'on le pourra, on le
fait. Je suis ravi. Très bien.
D'accord, mais...
Dépression.
T'as mieux placé pour que ça se comporte. Mais pourquoi pas occuper son attention? Et lorsque Jack et moi, on aura maîtrisé le docteur, on s'attaquera tous à Stanley, d'accord?
Il faut à tout prix qu'on se tienne ici.
Stanley, qu'est-ce que tu as fait? Il t'a fallu beaucoup de temps pour une tâche aussi simple. Bien, jeunes gens, il est temps d'aller travailler. Alors Stanley va avec Kim. Quant à Donna et Jack, ils vont m'accompagner. 88. 80,5. 89.
Le docteur t'a ordonné de nous détacher. Détachons à la première. Le docteur t'a donné des ordres.
Ça vous fait des années. Le docteur dit que la vie n'est pas rose pour les gens. Ça bouge pas. Le docteur dit qu'il faut venir les gens. Ça vous fait des années.
Des deux précédentes expériences indique que la prochaine apparition
furieuse, tu risques d'être puni.
Devrait se localiser plus en profondeur. Ils n'ont qu'à se débrouiller seuls. 14 à 22. Très prometteur. Est-ce que tu peux m'indiquer la position exacte, Jérémy? Il faut que je...
Je vous assure.
Mais qu'est-ce qu'il va me faire?
Ma caisse à outils, qu'est-ce qu'elle fait ici? Tout à l'heure, je m'occuperai de ton traitement, Stanley, oui.
Non!
Je suis certaine qu'il y a des extraterrestres.
venez d'acheter ce disque. Vous venez d'acheter ce disque. Ou des amis vous l'ont prêté. Vous venez de le poser sur votre électrophone. Vous n'y apprendrez rien que vous ne sachiez déjà depuis longtemps. Et pourtant, ce que vous allez entendre vous paraîtra pratiquement inécoutable. C'est que tous, autant que nous sommes, nous refusons la vérité. Tous. Vous et moi. Moi et vous. On se bouche les oreilles. On lit son journal habituel. On dit « c'est pas possible ». On se révolte dans ses pantoufles. Et puis, il y a un rayon de soleil. Alors on se dépêche d'oublier. On ne peut même pas dire qu'on soit lâche. Il faut bien vivre. Je suis comme vous. Ni meilleur, ni pire. De temps à autre, j'ai un sursaut. Une petite vague d'indignation. Ma sainte colère d'un état. D'un état, oui. Qui ne ferait pas de mal à une mouche. Un jour, réflexe stupide, j'ai donné un coup de volant brusque et fait une embardée pour éviter un papillon blanc. C'était un jour d'été. C'est dire si poétiquement, pour ne pas dire bêtement, j'ai le respect de la vie. Et pourtant, un autre jour, massacrant méthodiquement une armée de fourmis qui vraiment en prenait trop à son aise, j'ai surpris, remontant de je ne sais quel profond de moi, un sentiment bizarre et indéfinissable. C'était comme le goût retrouvé de la destruction. Durant quelques secondes, j'avais peut-être, sans le savoir, réappris le goût du sang. Le sang appelle le sang. L'horreur est-elle à la portée de tous? Ce disque est un sursaut. Mais il ne faut pas qu'il soit un sursaut de haine. J'ai souvent eu honte. Le régime. J'ai eu honte pour le sang versé. Pour le sang des hommes, pour la torture. J'ai eu honte pour l'Indochine et bien avant pour l'Allemagne. J'ai eu honte pour l'Algérie, pour la Grèce et pour Budapest aussi. J'ai eu honte pour le Vietnam et pour ce mois de mai en France. Au rapport des faits, devant les témoignages, j'ai eu le cœur gonflé de haine et l'envie de vomir cette haine. Mais à la face de qui? Qui est véritablement responsable? Quand un gouvernement change, la police, elle, ne change pas. Et matraque au besoin ceux à qui elle obéissait la veille. Elle fait son devoir, la police. D'ailleurs, nous savons tous que nous payons ces gens-là pour nous taper dessus. Chamfort déjà, n'écrivait-il pas dans ses maximes, la police est une chose si abominable que les Turcs préfèrent la peste et les Anglais les voleurs. La question n'est pas là. Ôtez l'uniforme et vous avez un homme sur une plage qui joue au ballon et sauve un étudiant qui allait se noyer. Ce que je voudrais comprendre, c'est le mécanisme. Que se passe-t-il? Quel est le processus? L'acheminement? Comment devient-on un bourreau? Quelle est la drogue? Le filtre qui libère les forces du mal? Pourquoi un homme, ni meilleur ni pire qu'un autre, pas très intelligent peut-être, mais dans la moyenne, quoi, un homme normal, enfin, ayant une femme, des enfants, un chien, peut-être même, qu'il caresse le matin, pourquoi cet homme, un soir, se met-il à tabasser, à matraquer, à torturer? Pourquoi Auschwitz et ses bourreaux, petits bourgeois terrifiants de banalité, employés de banque avant la guerre, épiciers, buvant et pissant bien sagement leur bière, en écoutant Mozart le samedi soir? Pourquoi ces jeunes Américains, à peine sevrés, gorgés de lait et de jus de carotte stérilisé, qui s'amusent à jeter par-dessus bord des prisonniers vivants lors de convoyages par avion? Pourquoi certains paras, si virils, lorsqu'ils défilent, béret rouge en triomphe, avouent-ils être réveillés la nuit par les cris de ceux qu'ils ont torturés? Charles de Gaulle aurait-il dit « Le sang sèche vite ». C'est vrai. Il sèche vite. Et la pochette de ce disque qui saigne est déjà sèche. Je ne sais rien de ce sang-là, si ce n'est qu'il coula dans la nuit du 23 mai 1960. L'homme, l'âge, j'en sais rien. C'est du sang d'homme, un point, c'est tout. Pourquoi tous ces coups? Pourquoi ce disque? Peut-être parce qu'à toutes ces questions, apparemment sans réponse, il y a tout de même une réponse. Mais cette réponse, hélas, n'arrange rien. Cette réponse pose à nouveau une question. Et si un flic dormait en chacun de nous, et si nous étions tous des bourreaux en instance? Les dépositions qui vont suivre ont été recueillies par une commission de témoignages et d'assistance juridique composée d'un groupe d'avocats, de médecins, de sociologues, de professeurs et d'étudiants. Leur authenticité ne saurait être mise en doute. La plupart de ces dépositions ont été objectivement relatées dans toute la presse. L'original et des copies de ces témoignages ont été déposés dûment signés en lieu sûr. Témoignage d'un étudiant en médecine. La plupart des CRS souriaient avec une haine indescriptible. Ils nous disaient « Vous nous avez appelé des SS, eh bien on va vous montrer comment se conduisent les SS. Vous avez descendu deux des nôtres, on va se venger. Et bientôt, on tirera sur vous comme nous l'avons fait lors de la répression contre les Arabes. 150 types nous avons descendu. Ça, vous n'avez pas su. » Témoignage d'un lycéen de 18 ans, gravement blessé, actuellement hospitalisé et qui a fait l'objet d'une tentative de noyade. Acculé contre le parapet du pont, je montais dessus pour éviter un coup de matraque quand un CRS me dit « Allez, saute !» J'étais affolé et descendis de l'autre côté du parapet où j'avais repéré un étroit rebord où poser mes pieds. Mes doigts ne faisaient plus qu'un avec le réverbère derrière lequel j'essayais de protéger ma tête. Pour me faire lâcher prise, le CRS m'écrabouillait les mains à coups de matraque et répétait « Saute !» Mais saute donc. Cela a bien duré une minute, jusqu'à ce qu'un policier en civil intervienne en me retenant par la manche de ma veste. Il me dit de repasser le parapet et qu'il ne me serait fait aucun mal. Je n'ai d'ailleurs jamais été frappé en sa présence. À Montparnasse, un garde-mobile s'était lancé sur un couple déjà âgé qui longeait peureusement la vitrine de chez Dupont. Il hurlait d'un ton suraigu « Il faut tous les tuer !» et brandissant son mousqueton par le canon comme un bûcheron sa cognée, l'a abattu avec une sauvagerie ignoble sur les reins de la femme qui est tombée sur le ventre en poussant un hurlement ininterrompu comme une bête gravement blessée. Son compagnon, probablement son mari, s'est penché sur elle pour lui porter secours. Le même garde l'a abattu de la même manière et l'homme est tombé sans pousser un cri. Poussant des hurlements, comme je n'en avais jamais entendu, une dizaine de CRS déchaînés se ruèrent dans l'entrée, matraques et boucliers en main, en criant qu'ils allaient nous massacrer tous. Un jeune couple, dont la femme était enceinte depuis 6 mois, se réfugia dans la salle de bain. Presque aussitôt, les CRS en défoncèrent la porte et, toujours avec les mêmes hurlements, se précipitèrent sur ce couple. J'étais caché dans la pièce à côté, la seule pièce où, par miracle, ils ne sont pas rentrés. J'ai entendu les hurlements de cette femme criant « Je suis enceinte » et se faisant matraquer à grand renfort de « Tiens, salope, tu vas voir si t'es enceinte ». Un infirmier, incarcéré au commissariat du 14e, fait état de la scène suivante. Le plus pénible, c'est lorsque nous sommes repartis pour le 9e BT. J'ai vu un flic dans le car prendre une épingle à nourrice et la planter dans les cuisses d'un jeune étudiant et même dans ses parties. Celui-ci hurlait. D'une infirmière, arrêtée alors qu'elle évacue des blessés, conduite à Beaujon, matraquée, jetée en cellule. Depuis la grille, je peux voir la cour. Un jeune homme passe à moitié nu. Il a les jambes lacérées de coups de matraque. Il saigne. Il se tient le bas-ventre d'une infirme déshabillée en lui matraquant le sexe jusqu'à ce que ses chairs éclatent. Une lycéenne de 16 ans nous raconte qu'elle s'est fait arrêter à Saint-Michel par des CRS. Ils l'ont conduite dans leur car et là, à 4, ils l'ont violée. Elle me dit qu'elle s'est laissée faire, sinon il l'aurait matraquée et tendue. Ses vêtements sont déchirés. Un jeune soldat qui passa 11 mois en Algérie écrivit au président de la République pour l'informer de faits précis dont il avait été le témoin. De sa lettre rendue publique le 2 septembre 1958. J'ai vu de mes propres yeux torturer des centaines d'hommes, parfois des gamins et même des femmes. J'ai encore dans les oreilles les hurlements de douleur qu'ils poussaient. Comment vous expliquer mon état d'esprit en voyant les officiers se transformer en tortionnaires? Nous sommes loin de la pacification pour laquelle nous avions été rappelés. Nous sommes désespérés de voir jusqu'à quel point la nature humaine peut s'abaisser. Extrait d'une lettre ouverte, adressée à M. André Malraux, par des avocats du barreau de Paris, relatant les tortures dont leur client avait été victime. Puisque vous proposiez, Monsieur le ministre, à Messieurs François Mauriac et Albert Camus, de se rendre en Algérie pour constater que la torture y avait disparu, nous nous permettons de vous suggérer de leur demander plus simplement d'aller à la prison de Versailles et au commissariat d'Argenteuil, pensant que la dénonciation de la torture ne saurait être confidentielle, nous estimons devoir rendre notre lettre publique. D'un jeune Algérien, Moussa Kebaili. J'étais étudiant à Paris, arrêté, conduit dans les locaux de la DST, rue des Saussets. L'un des policiers, m'appliquant les électrodes dans l'anus et sur le cœur, me fit remarquer « J'ai connu la torture chez les nazis, maintenant je l'applique. » D'Henri Allègue, extrait de la question. Il tenait son visage tout près du mien. Il me touchait presque et hurlait. « Tu vas parler, tu vas parler. Tout le monde doit parler ici. On a fait la guerre en Indochine. » Ça nous a servi pour vous connaître. Ici, c'est la Gestapo. Tu connais la Gestapo. Puis, ironique, tu as fait des articles sur les tortures, hein, salaud? Eh bien, maintenant, c'est la 10e DP qui les fait sur toi. Ce qu'on fait ici, on le fera en France. Ton Duclos et ton Mitran, on leur fera ce qu'on te fait. Et ta putain de République, on la foutra en l'air aussi. Du caporal R, 2e BEP. S'il existe un jour un nouveau tribunal de Nuremberg, nous serons tous condamnés. Des oradours, nous en faisons tous les jours. De la revue Esprit, mai 58. Il arrivait que les gendarmes se livrent sur des prisonniers à des abjections, de véritables atteintes à la dignité humaine, au point d'essayer de transformer des hommes en bêtes. J'ai vu des hommes qu'on obligeait à subir des rapports sexuels de la part des chiens. D'autres choses encore innommables. Le 3 janvier 1957, Boumediene Mohamed, du douar Ouled Amou, a été fait prisonnier et emmené à la gendarmerie de Turenne. Là, il fut attaché par les pieds, au plafond, la tête en bas. N'ayant rien voulu dire, les Français lui engagèrent la tête dans un fourneau. Il mourut ainsi, brûlé vif. Le même jour et au même lieu, un autre prisonnier, Mohamed Abdellah, ayant également refusé de parler, les mêmes Français lui placèrent un pain de dynamite dans l'anus et le firent exploser électriquement. Son corps fut complètement déchiqueté. Journal d'une maquisarde, paru dans El Moujahid, numéro 46, 20 juillet 59. C'était au cours de l'été. Nous avions une voisine enceinte. J'étais chez elle lorsqu'au cours d'un ratissage, des soldats français ont fait irruption dans la maison. J'ai pu me cacher, mais j'ai vu toute la scène. Ils ont pris la femme et lui ont ouvert le ventre. Ils arrachèrent alors le fœtus et s'amusèrent avec, comme avec une balle. Ils le balançaient de l'un à l'autre. Voici ce qu'on fait avec un sale arabe, disait-il. J'ai tout vu de mes propres yeux. Je n'avais pas encore 15 ans. Recueilli par la journaliste suédoise Christina Liljestierna. Un enfant de 7 ans, à qui un lieutenant avait de force tenu les yeux ouverts, afin qu'il vît et se souvînt longtemps de la torture et de la mort infligée à ses parents, a dit « Je ne désire qu'une chose, de pouvoir découper un soldat français en petits morceaux, en tout petits morceaux. Beaucoup l'ont fait d'ailleurs. Les jeux de la mort sont universels. Déclaration adoptée par le tribunal Roussel à l'issue de sa première réunion le 15 novembre 1966 à Londres. Extrait. Bien que nous n'ayons été investis dans nos fonctions par aucune organisation officielle, nous en avons accepté la responsabilité dans l'intérêt de l'humanité et de la sauvegarde de la civilisation. Nous agissons de notre propre chef, de manière absolument indépendante de tout gouvernement, de toute organisation officielle ou semi-officielle, dans la ferme conviction que nous exprimons l'angoisse profonde et les remords ressentis par un grand nombre de nos prochains dans beaucoup de pays. Le tribunal de Nuremberg avait été institué par les alliés vainqueurs pour punir les crimes de guerre. Le tribunal Roussel ne châtiera personne. Le but de ses travaux est d'éveiller la conscience des peuples. Puisse ce tribunal empêcher le crime du silence de s'accomplir. Déposition du premier témoin américain, Peter Martinsen. Extrait. Il n'est pas un seul des interrogatoires auxquels j'ai assisté au Vietnam qui n'ait comporté de crimes de guerre au sens des conventions de Genève. Je me souviens d'un gars, observateur sur un hélicoptère, qui aimait abattre les gens au sol après avoir joué avec eux au chat et à la souris. Et puis des milliers de faits de ce genre. Et puis la torture, des tortures parfaitement évitables. Alors on s'aperçoit que tout le monde participerait à la torture s'il n'existait pas une bande de sadiques spécialisés dans les interrogatoires. Mais au fond, je ne crois pas que ces hommes soient des sadiques. L'homme, placé dans certaines conditions, a la faculté innée de faire du mal à son prochain. Et au Vietnam, ces conditions sont données. Il est horrible de se rappeler ces interrogatoires où vous avez commencé à tabasser un de vos semblables pour lui arracher un renseignement, où vous avez continué parce que son silence vous a foutu en rogne et où vous avez fini par lui taper dessus pour le plaisir. Il faut que les Américains comprennent que les nazis n'ont pas le monopole des crimes de guerre. Question. Dans tous les cas que vous avez rapportés, c'était un Américain qui pratiquait la torture. En Amérique, quand il est fait état de ces tortures, l'explication habituelle donnée, c'est que les coupables sont les Vietnamiens et eux seuls, et que les Américains, soit n'ont pu les en empêcher, soit ne se trouvaient même pas sur les lieux. Peter Martinsen. Dire que les Vietnamiens sont seuls à torturer, c'est mensonge et aberration pure. Je n'ai jamais vu des Vietnamiens mener un interrogatoire et j'ignore comment ils s'y prennent. Je suppose qu'ils agissent exactement comme nous. Question. Avez-vous entendu parler de militaires américains ayant refusé de diriger un interrogatoire? Peter Martinsen, non. Je n'en connais pas un seul cas. J'ai bien failli m'y refuser, mais j'ai malheureusement été trop lâche pour aller jusqu'au refus effectif. Déposition de Madame Pham Thi Yen, pharmacienne, membre de la délégation du Front National de Libération. Extrait. Les prisons sont nommées camps de rééducation. Nous étions enfermés dans des chambres qui étaient des espèces de cellules conçues pour une vingtaine de prisonniers. Et nous étions 71 en tout. Nous mangions dans la chambre même. Nous avions un fût sans couvercle pour nos besoins. Cette salle était mitoyenne à une autre où vivaient des lépreux très gravement atteints. Et c'étaient les lépreux qui nous apportaient de l'eau à boire. Leurs mains étaient couvertes de plaies sanglantes. Des doigts manquaient. Un jour, vers 18 heures, nous fûmes surprises par une douche froide, nauséabonde, à travers les grillages, près du plafond. Cela nous fit vomir de la bile. Revenus de notre surprise, nous constatâmes que notre tête, nos cheveux, notre visage, nos vêtements, le sol étaient inondés de crachats pleins de sang, de pu et de restes d'aliments. Les bourreaux riaient à travers la porte. Puis les tortures recommencèrent. Je ne parlerai pas aujourd'hui des tortures habituelles qui survenaient à chaque séance, des coups, du courant électrique à travers le corps, ni du supplice de l'eau. Non, ils me servirent, suivant leur expression, un plat sensationnel. Ils m'attachèrent à un arbre à kaki dans le jardin, près d'une cage où deux tigres rugissaient férocement. Voyez-vous, au sud Vietnam, ces arbres qui produisent des fruits doux ont beaucoup de fourmis jaunes. Justement, cet arbre était de cette espèce. Les branches étaient pleines de fourmis jaunes. D'autre part, la terre qui en recouvrait les racines était grouillante de fourmis rouges dites de feu parce que leurs piqûres produisent des sensations de brûlure comme le feu. Les commandos m'attachèrent avec des menottes, les bras embrassant le tronc de l'arbre. Ils recouvrirent mes jambes avec cette terre pleine de fourmis rouges. Ils battirent les branches de l'arbre et firent pleuvoir les fourmis jaunes sur ma tête, ma figure, mon corps. Elles me piquaient partout. Elles entraient dans mes oreilles, mon nez, mes yeux, ma bouche, mes organes génitaux. Leurs piqûres me brûlaient atrocement et je ne pouvais faire aucun mouvement pour les éviter. Les tigres rugissaient, mes tortionnaires hurlaient de rage. Question. Les autres femmes avec vous subissaient-elles le même traitement? Réponse. Oui. Tout ce que j'ai décrit a été appliqué à toutes les femmes. Au cours de mes 7 années d'emprisonnement, j'ai vu de mes propres yeux bien d'autres crimes. Les enfants, les vieillards n'ont pas été épargnés. Une fois, à la sûreté, j'ai vu les agents arrêter un homme nommé Key, avec son père âgé de 90 ans, sa femme enceinte de 9 mois. Ils torturèrent Key devant son père et sa femme. Ils lui brûlèrent le bras avec une mèche imbibée d'essence. Ils lui arrachèrent petit à petit toutes les dents avec des tenailles. Ils lui clouèrent les doigts sur la table en bois et lui arrachèrent de force le bout des doigts. Le sang giclait. Il riait à chaque hurlement de Key, au cri d'effroi de son père et aux convulsions nerveuses de sa femme enceinte. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les quelques faits que je vous ai rapportés ne sont qu'une infime partie des souffrances que mes compatriotes endurent depuis 1954 pour l'indépendance de leur pays et pour la paix dans le monde. Ce n'est plus aux hommes que je m'adresse.
le